travail de gardien, de protecteur. Notre travail, c'est de veiller l'animal. C'est vraiment un apprentissage de vie parce que tu t'en prends dans la face tous les jours avec ces merveilleux troupeaux. Et je pense qu'être berger, ça apprend beaucoup à être humain.
Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain.
Bonjour, je m'appelle Dounia, j'ai 25 ans et je suis jeune bergère depuis 2 ans maintenant. Et là, je m'en vais dans 2 semaines pour ma deuxième transhumance. Et c'est vraiment un métier qui m'anime. J'ai grandi à Genève, dans une maison à Tonnet. Maintenant, Tonnet, c'est devenu un peu une ville, en fait. Mais quand j'étais petite, c'était, je sais pas combien d'hectares de champs, mais c'était planté des cultures. Puis après, il y avait le bois de Bélidée à côté. Et donc, c'était un espace très calme. Il y avait des chemins qui traversaient les champs, on pouvait aller se promener. C'est une chance d'avoir grandi là-bas. Puis on avait notre école primaire, l'école de Pont-Bochet, qui était juste à côté. Donc, en fait, dès toute petite, on pouvait partir à vélo toute seule. Aller là-bas et c'était très doux comme espace. Mon père, il enseignait le sport au primaire. Donc durant tout mon primaire, je l'ai eu comme prof de gym. Et ma maman, elle était secrétaire dans un bureau d'avocat. Et ensuite, elle a quitté ce métier-là pour plonger plus dans la peinture, en fait. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, je pense, prof. Enseignante, gna gna gna, comme mon papa. Ensuite, vétérinaire parce que moi, j'ai toujours grandi avec les chevaux. Mon père, il a des chevaux depuis qu'il a 20 ans. Donc, on avait ce lien-là à l'animal avec ma sœur aînée. Et après, je voulais être écrivain. Ensuite, je voulais travailler avec les chevaux en liberté. Et ensuite, j'ai voulu enseigner à nouveau, mais l'histoire et le français. Et l'allemand aussi. J'aime beaucoup les langues, j'adore l'allemand. L'histoire, j'ai eu des profs en fait qui étaient vraiment passionnants. Et j'étais là, mais c'est merveilleux. Et au final, j'ai fait les beaux-arts. On nous a beaucoup encouragé, ma sœur et moi, à dessiner, à lire. Et on nous a aussi, on a toujours eu plein de crayons, des stylos, de la peinture. On était vraiment encouragés là-dedans, à essayer des trucs, quoi, à bricoler, etc. Quand j'étais dans la création, ou même encore maintenant, il y a un truc qui se place, qui est tellement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai en fait, c'est ça. Genre, je suis en train de toucher un truc du vivant ou de la vie qui est où tout est à sa place. Là, soudainement, tout est aligné. Ouah. Et en fait, je trouvais ça tellement bon et juste à ce moment-là que c'était normal de continuer là-dedans, en fait. Parce que c'était aussi ce qui me faisait me sentir vivante. Pour moi, c'est une chose qui était hyper importante, cette sensation du vivant, qui m'a beaucoup accompagnée ensuite dans la suite de mes études. Et donc, j'ai envoyé des dossiers dans différentes écoles, notamment une école à Montréal. Et puis, je suis partie là-bas, 3 ans et demi à peu près. Moi, en fait, ce qui me faisait capoter, ce que j'aimais beaucoup, c'était la performance. Donc vraiment, ce lien au corps, de travailler avec mon corps. Donc suite aux Beaux-Arts, et du temps qui est passé, puis j'ai fait la formation des bergers. Et c'est vrai, hein, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas du tout les mêmes mondes. Et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est la même chose. Parce que dans les arts, notre travail, c'est d'observer et de trouver des solutions. Et de jamais lâcher, il faut tellement croire en soi, imaginer. Et j'ai l'impression que le métier de berger, c'est ça. Notre travail, c'est d'observer, de comprendre l'animal, de comprendre comment l'animal bouge, comment l'animal mange, comment l'animal se sent, et de trouver des solutions. Et avec les moutons, c'est un travail de corps. J'avais donc une pratique d'art plastique, donc le dessin, l'installation, etc. Et à côté de ça, toute une pratique de corps en danse, puis en théâtre aussi. Et c'est ça avec l'animal, c'est du mouvement permanent, et je pense que la danse, ça l'aide beaucoup, parce que ça amène à être hyper mobile en fonction du mouvement du troupeau. Et ça aide peut-être aussi à savoir se placer, ou à savoir comment le corps bouge, et quel impact on peut avoir sur le corps de l'autre.
Musique.
l'école que j'ai faite pour la formation des bergers, c'était par le biais de l'école d'agriculture de Châteauneuf, qui est à Sion. C'est une formation qui se déroule sur une année. Donc il y a 5 modules de cours théoriques, et après c'est des stages. On compte à peu près 3 semaines d'agnelage, donc c'est la période des naissances, plutôt pendant l'hiver, printemps. Et ensuite 2 mois d'alpage en montagne. Sauf erreur, cette formation, elle est née suite à... Donc cette formation, elle n'est pas vieille, hein, et elle est née suite à une demande croissante des éleveurs qui avaient besoin de bergers, notamment dû à la prédation, qui a commencé à revenir en Suisse et à augmenter. Pendant longtemps, les éleveurs suisses, ils mettaient les moutons en montagne. Puis en fait, les brebis, elles faisaient leur vie pendant 2, 3, 4 mois. Les éleveurs, ils montaient X fois par semaine pour donner du sel, voir comment allait le troupeau. Puis ensuite, en fin de saison, ils récupéraient le troupeau. Sauf qu'en fait, plus de prédation, plus de pertes, des troupeaux qui vont pas bien en fait. T'as des troupeaux qui sont affolés, t'as des troupeaux qui dérochent, enfin, ça devient la catastrophe. Moi cet été, je me suis retrouvée avec le loup qui nous suivait. Et moi j'étais devant, donc je pouvais pas être derrière. Fait que si on est deux, ça n'arrive pas. Et là, il y a eu cette nouvelle demande, ça, d'avoir des bergers. En fait, dire qu'en fait, on a besoin de monde pour veiller les troupeaux. D'une personne qui va être non-stop présente au service des brebis. Moi, j'avais fait mes stages donc, en montagne pour finir ma formation. Et ensuite, j'ai pu travailler durant l'automne chez un éleveur. Et cet éleveur, il savait que j'avais fort envie de faire une transhumance. En Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Fait que de trouver une place, c'est pas évident. Puis un jour, il me dit, « Ah, Dounia, il y a une nouvelle transhumance, en fait, qui va apparaître sur le territoire suisse. Et il cherche une aide bergère. » Moi, j'étais comme, oui, prenez-moi. Donc, je me suis présentée à l'éleveur, on s'est présenté, j'ai dit un peu qui j'étais, ce que je voulais, ce que je pouvais faire. À ce moment-là, je venais de rencontrer ma chienne, Sud, qui m'accompagne au travail. Et voilà, on est parti avec ma collègue Eliane et le troupeau. On a fait le premier mois ensemble. Et au final, comme ça marchait bien entre nous deux, eh ben, j'ai pu faire la transhumance jusqu'à la fin, jusqu'à mars. Et donc, l'an dernier, hiver 2022 et début 2023, c'était ma première transhumance. On part avec un troupeau d'agneaux. L'idée, en fait, c'est d'engraisser les agneaux de l'été qui n'ont pas pris assez et qui puissent manger durant tout l'hiver pour ensuite être mangés, partir à la boucherie. Nous, l'année passée, on en avait environ 500. Et pendant 3 mois, on est donc en mouvement permanent. On est nomades, en fait. On est des bergers sans terre. Et résultat, on a un droit de passage sur les terres agricoles. Et donc, on dépend des paysannes et des paysans pour aller manger chez eux. Les moutons, ils vont donc manger l'herbe qui reste, l'herbe qui n'a pas été mangée par les vaches, l'herbe que les vaches n'ont pas voulu manger. Ils ne mangent pas les mêmes espèces, au final. Les moutons, ils vont aussi nettoyer les surfaces. En gros, les moutons, avec leur petite bouche, là, tic, 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 ils vont manger les petites herbes. Et en fait, ça va redynamiser la pousse. Et ils mangent un peu ce qu'ils veulent. Ils nous le font tellement comprendre quand ils ne veulent pas. Ils ont le petit nez au sol, là. Ils avancent, ils reniflent, et il n'y en a aucun qui s'arrête. C'est les pires moments. Où tu te trouves une immense parcelle, t'es là, yeah, on va rester 1 heure, 2 heures. Puis ils la veulent pas. Puis t'es là, d'accord, faut qu'on aille ailleurs, on sait pas où, faut qu'on aille ailleurs. Cette première expérience, moi, j'ai aimé ça. C'était plein de choses. Parce que c'était une première fois, c'était un challenge. Parce qu'Eliane et moi, on est pas toutes deux très jeunes bergères. C'était un peu un gros pari. Puis on se connaissait pas. Et au final, on a passé 3 mois à vivre ensemble tout le temps. Alors, on dormait pas dans le même lit. C'était très bien. Chacune avait son espace. Mais on avait quand même un quotidien qui était partagé en tout temps. Autant dans les moments de stress que dans les moments heureux et légers. Nous, on travaillait beaucoup avec les horaires. Parce que les moutons, ils sont très bons avec ça. Ils intègrent assez vite. Donc, nous, on partait à 8 heures. Moi, je dormais sous tente et Eliane, elle était dans une roulotte. Donc, moi, je me réveillais, j'émergeais de ma tente là. Souvent, j'allais dans la roulotte où Eliane, elle avait fait un feu, on mangeait un truc. Après, moi, j'allais ranger ma tente, on se préparait l'une l'autre, on prenait nos chiens, enfin bref, on préparait nos affaires. Pour qu'à 8h, voire vers 8h moins le quart, on soit aux moutons. Ce qui est trop beau, c'est que le matin, les moutons, ils sont encore, quand ils ont bien mangé, ils, Ils dorment, quoi. T'as des espèces de petits motons de moutons, puis tu regardes, puis ah, salut, ça va? Donc en fait, c'est le réveil. Donc on fait le tour du troupeau pour voir juste comment ça va, les lever. Quand ils sont debout, que tu vois dans quel état ils sont, s'il y a des boiteries ou pas, s'il faut en attraper, si ça va au niveau, je sais pas, des yeux, plein d'affaires. Nous, nos moutons, on les parquait la nuit. Donc, il y en a une qui démontait le parc, l'autre qui partait avec le troupeau. Celle qui démontait le parc rangeait toutes les affaires dans une voiture. Et suivant comment le troupeau se menait, si c'était calme, il y en a une qui allait chercher la voiture, l'autre qui allait chercher le tracteur avec la roulotte, ramener le tracteur et la roulotte. Donc, c'était beaucoup de gestion à ce niveau-là. Ensuite, nous, on les faisait chômer. Ça veut dire qu'il y a un temps où les moutons, ils se mettent à ruminer parce qu'ils ont assez mangé. Donc, avec leurs estomacs, il y a la nourriture là qui remonte, qui repart, qui remonte, qui repart. Et ça leur permet de faire de la place pour l'après-midi. Et ce qu'on faisait, en fait, on les rassemblait avec l'aide des chiens. On avait comme un cercle de moutons. Et à ce moment-là, ils se couchaient tous. Et pendant 3 heures, on les garde couchés. Donc, nous, c'est le moment où on peut manger. Il y en a une qui peut dormir si elle en a besoin, ou aller gérer d'autres trucs. Et souvent, Hélène, dans ces moments-là, elle allait voir l'herbe et moi, je gardais le troupeau. Donc, elle part, là, elle prenait sa voiture, puis elle partait voir les paysans, voir où on pouvait aller manger avec les moutons, voir quel chemin prendre. Après, elle revenait. À 2 heures, clac, on les relance pour qu'ils retournent manger sur une autre parcelle ou sur un autre bout de la même parcelle. Et quand il fait nuit, on sent qu'ils sont pleins. Tu vois, là, du côté gauche, là, que l'estomac, il fait un peu pouf, une boule. Ça, c'est bon, c'est comme ok, ça veut dire qu'il a bien mangé, qu'il est rond et tic, tout le monde au lit. Et ensuite, quand tout le monde est au lit, s'il y a encore des soins à faire, tic, 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 les soins. Puis après, c'est s'occuper de nos chiens et après, s'occuper de nous. Les moments les plus durs. Je pense que ça se joue avec le temps dans nos journées. Le temps donc du ciel, les journées de pluie, la bise. La bise, c'est une chose très vicieuse. Elle s'infiltre partout. Et c'est vrai que on a eu l'année passée un hiver avec quand même pas mal de neige. Donc on avait la neige, la bise. On est là, ok, allez, on y va. Donc pour avoir chaud, ben, on marche, on fait des allers-retours, on saute sur place, on trouve des alternatives. Quand il neige, les troupeaux, ils sont hyper calmes. Parce qu'ils sont concentrés à creuser pour manger. Et on va voir les paysans, paysannes, ils sont comme, bah ouais, mon champ, c'est celui-là, là-bas. Puis t'es là, ah oui, d'accord. Et tout est blanc. Donc nous, on passe nos journées à creuser pour voir ce qu'on a sous les pieds, être sûr qu'on ne se retrouve pas sur des cultures, qu'on est bien sûr de l'herbe, qu'on n'est pas sur des petits semis. Enfin bref. Ça, c'est pas évident. Et les moments où ça joue pas avec le troupeau. Dans le sens où, alors, on ne sait pas pourquoi, ils veulent pas suivre. C'est hyper dur, mais personnellement, en fait. Il y a un jour, le troupeau, on devait traverser un village et le troupeau s'est arrêté. Et il me regardait, il n'y a plus personne qui avançait. J'étais comme, mais non, les amis, faut y aller. Et j'avais ma collègue qui hurlait, mais appelle-les, appelle-les, nanana. Puis j'étais comme, mais c'est ce que je fais, puis ils viennent pas, on est marre. C'est un peu pas un échec, mais les moutons, ils sont hyper bons pour te mettre face à toi-même. J'étais là, mais là, j'arrive pas. J'ai comme pas confiance en moi, ils le sentent, j'ai pas la force de passer par-dessus ça et d'arriver à les avoir avec moi, à leur dire que tout est beau, merveilleux. Donc, résultat, ils traverseront pas. Et au bout d'un moment, bah, ils étaient comme, bon, ok, on va la suivre, on va être gentil. Donc, ils m'ont suivi. Mais c'est ces moments-là où, en fait, ils remettent sans cesse en question les moutons. Ils sont trop forts pour ça. Mais c'est trop dur. Ça a été beaucoup de stress aussi, surtout le début. Moi, un jour, je m'étais dit, mais en fait, si tout l'hiver c'est comme ça, moi, mon corps, en fait, il va casser. Parce que j'étais tellement tendue que j'avais l'impression que mon corps, c'est juste un bout de bois qui allait plus jamais plier. J'étais là, oh non! On ne peut pas continuer comme ça. Et on n'a pas continué comme ça. On a réussi à changer de dynamique aussi et gentiment se faire confiance. Puis on s'adapte, je crois. Et c'est fascinant d'avoir une masse animale qui accepte de te suivre et qui répond à ton cri quand tu lances ton cri. Il y a comme ce lien-là de corps et de voix qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Et à vivre, c'est hyper puissant en fait. Et c'est un métier qui est tellement beau. C'est incroyable parce qu'on est dans des espaces qui sont fascinants et on a un travail de gardien, de protecteur. Notre travail, c'est de veiller l'animal, et c'est vraiment immense. Je pense qu'on est pas mal en lien avec le grand, avec quelque chose de très grand qui des fois nous dépasse. Il se passe des trucs parfois, on est là, mais. Je sais pas. Ça s'est passé. Merci. Tout va bien. Deliane, en tout cas, de mon travail avec elle, moi j'ai gardé. Enfin, on a beaucoup ri. Et c'était trop bon d'avoir ça aussi. D'avoir quelqu'un avec qui on. Enfin, on s'est tellement marré, en fait. Et aussi parce que des fois, t'es dans des situations, t'es là, mais. Pff, sérieux! Oh, on va en rire, on pleura plus tard, parce que c'est désespérant. On est fatigué, on est toute mouillée, et puis ça va pas comme on veut. Là, ouais, c'est pas grave, on laisse tomber. Il y a un jour qui était merveilleux, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était tout enneigé. Donc on part le matin avec le troupeau, puis là il y a un couple qui vient nous voir, qui nous dit « Ah, bonjour, ah oui, vous pouvez aller là-bas, il y a un peu d'air, gna gna gna. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous fasse à manger à midi ?» Puis nous, on était là-bas. Bon, volontiers, mais enfin vous embêtez pas quoi. Non, non, c'est tout bon. Et en fait, nous à midi, on avait une journée, on a eu un grand soleil. Le troupeau, je sais pas ce qu'ils avaient. Ils étaient tellement disciplinés, hyper sales. D'un coup, je dis, mais le troupeau, il part, il y a la route là-bas. Puis en fait, ils restaient vers nous, ils se couchaient, ils ruminaient, hyper des petits anges. Puis là, il y a ce couple qui est arrivé, qui nous a amené à chacune un petit sac avec notre repas. On était les deux assis dans la neige, sous le soleil, avec un repas chaud, nos moutons qui étaient à côté de nous, qui étaient merveilleux. Puis on était là, mais c'est tellement simple, entre guillemets. En fait, là, on a pas grand-chose sur nous. Et c'est hyper léger. Et tout va bien. Ouais, cette sensation de bonheur, en fait. C'est ça. Le rapport à l'animal, il est particulier parce qu'au final, je me rends compte que je deviens presque engraisseuse professionnelle sous le terme de bergère. Ce qui est aussi une réalité en transhumance, c'est des bêtes qui vont partir à la boucherie pour être mangées. Moi, je donne tellement pour eux que c'est un peu comme un pacte ou un contrat. J'ai comme moi pendant 3-4 mois, je suis à vos services au nuit et jour. Je suis à côté de vous à faire en sorte que vous soyez bien, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux. On fait tout pour qu'ils soient heureux, nos moutons, en fait, pour qu'ils mangent bien, pour qu'ils aient la meilleure herbe. Et en échange de ça, bah, ils nous donneront leur viande. Après, il y a des agneaux qui nous choisissent ou qu'on choisit. Et ceux-là, tu sais pas pourquoi. En fait, ils vont venir vers toi quand tu vas les appeler. Et avec eux, il y a vraiment un lien qui se crée et c'est les plus précieux. Parce que quand t'appelles, ils viennent et ça amène le troupeau. Donc il y a vraiment une confiance, puis c'est bien nos guides, nos meneurs. Donc ceux-là, c'est vraiment les petits bijoux. Mais au-delà de ça, c'est ceux qui. Moi, c'est ceux qui me font beaucoup de bien. Les jours où ça va pas, où je suis juste de travers, ou triste, où ça marche pas. Mais je sais que eux, ils vont venir, que je vais. Et en fait, ils viennent. Les animaux, ils viennent se coller. Tu les gratouilles, tu les caresses, puis ils restent. Et c'est des animaux qui sont hyper tendres. Et ça, c'était pas facile l'hiver passé, parce que moi, je me suis fait plein de copains, copines, et en fait, à la fin, ils devaient partir. Et s'est passé une chose. Il y a un agneau, un soir, il vient vers nous. On leur donnait du sel, puis il est resté hyper longtemps vers nous, à nous chatouiller le visage, à être là. Et en fait, tous les jours, ben moi, j'allais vers lui, il venait, et il était trop beau, quoi. C'était un agneau tout blanc, vraiment un gros pompon. Lui, il était. Bien, bien dodu, quoi. on l'a appelé Heusi, parce que son éleveur s'appelle Hans-Peter. C'est son surnom, Heusi. Ah, oh, c'est Heusi, gna gna gna. Et un jour, une des premières fois où un éleveur vient prendre des moutons, enfin des agneaux pour la boucherie, on les avait mis dans un. On avait fait un petit parc. On retrouve l'éleveur, il avait déjà commencé à en prendre dans la bétaillère. Et je regarde le troupeau, puis j'ai dit, bah, il est où, Heusi? Ha ha ha. Et bah, Heusi, il était dans la bétaillère. Et c'est ça, ça m'a vraiment mais retourné le ventre. Mais c'était. C'est mon métier. Mais en fait, à ce moment-là, je l'ai dit, oui, mais là, c'est pas un agneau, c'est mon copain, en fait. Et mon copain, on n'envoie pas ses copains à la boucherie. Et puis quand on fait ça, c'est terrible. Il me retenait, mais de pleurer. Et autant les autres agneaux, ça me faisait rien. Mais lui, bien évidemment, lui, il sortait sa tête des autres, il essayait de sortir. J'étais là, oh, mamma mia. Et l'éleveur, il m'a vu, il était là, ça va, Dounia? Non. Ah, c'est réussi dans la bétaillère? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort. Ah oui? Oui. D'accord. Et il sort Huzi de la bétaillère. Là, il y a Hans Peter, le propriétaire de Huzi, qui m'écrit un message et qui me dit « Dunia, je te promets que Huzi restera avec toi jusqu'à la fin de la transhumance. » C'est là, oh, Huzi. Et donc, toute la transhumance, j'avais Huzi avec moi. Et à la fin de la transhumance, c'est là, qu'est-ce qui va se passer de Huzi? C'est là, ouais, bah, je vais le garder. Mais résultat, pour cette nouvelle transhumance, eh bien, il y aura Huzi. On repart ensemble. Là, on est au mois de novembre et je me prépare à partir pour ma deuxième transhumance. Vu que moi, je mets une résistance au tracteur, à la roulotte, à la voiture, parce que pour moi, c'était trop de choses à gérer, trop de bruit, trop grosse masse, en fait. Et donc, j'ai choisi de partir avec mon vélo et ma remorque. Moi, je suis cycliste dans l'âme. Et quand j'ai vécu au Québec, l'hiver, j'étais à vélo dans la neige, donc je sais rouler dans la neige et je sais que j'en suis capable. Pas grave si je tombe, je sais que je me relève, normalement. Et en tout cas, c'est une chose qui m'apporte de la joie. Donc je me dis que c'est juste. Le métier de berger, donc ça reste un métier qui est saisonnier. En fait, on va avec le ciel et le soleil. Y a, en Suisse, il y a la transhumance hivernale. Et après, il y a la montagne. Où là, les bêtes vont en estive entre... juin, fin septembre. Donc moi, ça, c'est des périodes d'année où je suis avec les troupeaux. Mais ça veut dire qu'entre deux, il y a du temps autre. Et moi, ce temps-là, j'ai envie de le consacrer à la création, qui est ma formation de base, les beaux-arts. Et là, je me forme gentiment pour être clown. Et le clown, c'est une chose qui crée un bon équilibre avec le métier de berger. Je pense que ça aide à être berger, d'être clown. Parce que ça demande de prendre plein de voix, plein de rôles, plein de formes de corps. Et le clown, c'est une écoute tellement fine, tellement immense, tellement précise de l'environnement. On doit tellement observer pour être en réaction en permanence. Et c'est comme ça avec l'animal aussi. En ce moment, en tout cas, donc l'été, je vis à la montagne, l'hiver en transhumance. Et entre deux, ben, je suis assez mobile en ce moment. Je vais pas mal de colocation en colocation avec des amis qui m'accueillent chez eux où je peux louer des chambres, pas mal sur Genève. J'ai quand même le souhait, je pense le besoin, de quitter cet espace. Je crois que ça m'appartient plus. Je suis plus heureuse. C'est pas les mêmes mondes. Le monde de la ville, le monde de la montagne, le monde de la plaine. C'est drôle, quand on est à la montagne, on parle souvent du monde du bas. Ouais, ceux qui sont en bas là, nanana, puis on est en haut. Mais à un moment, il faut redescendre, il faut aller en bas. Je vois que c'est comme si j'étais plus disponible à ça. Ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que ça me fatigue beaucoup, en fait. J'ai moins de facilité aussi à être dans beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens. Moi, j'aime être avec le monde, puis discuter, etc. Mais quand on commence à trop parler, j'ai l'impression que ma tête, elle devient trop pleine. Et des journées là où j'accumule, parce que quand je suis sur Genève, je donne aussi des ateliers en art. Et c'est trop beau, j'adore ces moments. Mais ça dure, 2 heures, 3 heures. Et quand j'en sors, je suis là... Oh mon Dieu! Tout ce monde qu'il a fallu accompagner, écouter, gérer. L'humain, il est moins évident que l'animal, au final. Parce qu'il est, plein de... Il est peut-être moins autonome. Je sais rien. Oui, il demande plus. Et mais c'est hyper beau. Mais je vois que, ouais, comme une sorte de petite transformation, en fait, qui est. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait de la relève, qu'il soit jeune ou même moins jeune. Mais s'il n'y a pas de relève, le métier, il se meurt. Et c'est un des plus vieux métiers du monde. Et c'est ça aussi que je trouve immensément beau. C'est tout cet héritage, en fait, qu'on continue de nourrir et de faire pousser, tisser, qui grandit aussi, qui évolue beaucoup. On n'est pas berger comme on était berger il y a même 50 ans. Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Et ben, dans 10 ans, moi, je me demande si à ce moment-là, j'aurai une famille, des enfants, en fait. Et c'est questionnant avec ce métier de berger. Parce que c'est un métier qui, voilà, est saisonnier, on est présent, pas présent. Quand on est au troupeau, on est au troupeau. On n'est pas en train de donner le biberon ou d'aller chercher, je sais pas quoi, changer une couche. Les moutons, c'est des êtres qui demandent tellement d'observation. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bergères qui tiennent ce métier-là et qui gardent ce métier-là et qui ont des enfants. Alors, c'est pas forcément facile, c'est sûr, mais là, la vie, elle est de toute façon, c'est sauvage. Mon compagnon, c'est une personne qui me soutient beaucoup là-dedans, qui vient me voir et qui apprend aussi, qui m'aide, qui essaye des trucs. Et c'est hyper beau aussi d'avoir ce soutien-là. Et j'espère que dans 10 ans, donc les moutons et la montagne seront immensément là, mais la création tout autant. Ça vraiment, c'est pour moi d'une importance immense, parce que si j'ai pas la création, je pense vraiment qu'il y a un bout de mon âme qui va devenir gris. C'est complètement une recherche d'équilibre. C'est vraiment ça. Et pour moi, c'est la vie, en fait. La vie, c'est un équilibre permanent. Et c'est ça qui est aussi très beau, c'est que l'un nourrit l'autre. Et l'un, des fois, donne des clés à l'autre. Moi, je sais que la montagne, les moutons, ça me donne tellement d'ingrédients, tellement de nourriture pour créer des trucs. La montagne, c'est un espace qui permet de chanter, mais tellement large, de chanter avec les brebis. C'est trop beau. On a tous nos cris qui sont différents. Il y en a qui sifflent, il y en a qui chantent, il y en a qui appellent. Mais les moutons, ils sont très ouverts à ça. Et cet équilibre, Mais c'est ça, je pense que c'est la vie, en fait. C'est la vie. C'est toi d'équilibre.
C'était le dernier épisode, un peu plus long, de Graines d'agriculteur. Ce podcast a été réalisé par moi-même, Lila Erard, pour le journal suisse-roman Terre et Nature. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.